Bienvenue au pays des mythes et des légendes.
Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Hermès a entraîné Ulysse, 8 ans plus tard, sur la tombe d'Agamemnon. Ce jour-là, Oreste, devenu grand, vient rendre hommage à son père, lorsqu'une procession de femmes en deuil surgit. Là, il retrouve sa sœur, Électre, devant la tombe d'Agamemnon. Oreste a annoncé son intention de venger leur père en tuant leur mère. C'est ainsi qu'avec Pylade, il arrive à Mycène sous un déguisement. Le jeune homme a revu sa mère pour la première fois et ils ont annoncé à Clytemnestre être porteurs d'une urne contenant les cendres de son fils. Les ombres des enfers ne font plus peur à Ulysse. Ce qu'il vient de voir dans le monde des vivants lui paraît plus effrayant que le royaume d'Hadès. Mais pourquoi ? Pourquoi ne cesse-t-il de répéter en chemin ? Tant de violence, tant de sang, tant de haine. Ulysse ne parvient pas à comprendre comment cela peut exister. En le voyant si bouleversé, Hermès est profondément touché. Il se souvient du jour où, révolté par la cruauté d'Héra vis-à-vis de son fils Héphaïstos, il a cherché lui aussi à comprendre l'origine du mal. Il est allé assister au premier crime du monde, mais le mystère est resté entier. Il a seulement compris, au fil des ans, que le mal se trouve en chaque homme et qu'il appartient à chacun d'apprendre à le chasser de lui. « Tu me rappelles mon enfance, » dit-il à Ulysse. « Tu te poses les mêmes questions que moi. On voit bien que tu es mon arrière-petit-fils. » À ces mots, Ulysse sursaute. « Ton arrière-petit-fils ? » Hermès a un rire joyeux. « Ha ! Tu l'ignorais ! Ton grand-père, Autolycos, est l'un de mes fils. Je t'ai même vu tout bébé sur ses genoux. » Ulysse est émerveillé par cette nouvelle. Hermès poursuit, soudain intarissable. « Tu n'as pas remarqué comme nous avons des points communs ? Tu as hérité de ma ruse. Tu es aussi malin que moi et aussi beau parleur. Il n'y a que tes fameuses colères, celles qui t'ont valu ton nom, qui ne viennent pas de moi. » Ulysse éclate de rire. « Menteur ! Ça aussi tu me l'as donné. » Hermès est tout joyeux d'avoir réussi à détourner le cours sinistre des pensées d'Ulysse. Ils sont bientôt en vue de l'entrée des enfers. « Écoute, Ulysse, je dois te laisser continuer ta route sans moi. De nombreuses ombres attendent que je les accompagne au royaume d'Hadès, et mon père Zeus me réclame. Mais rassure-toi, je ne serai pas loin. Et tu sais bien que ma sœur Athéna t'adore. » Le dieu messager s'envole. Ulysse, qui apprécie beaucoup la compagnie d'Hermès, le quitte à regret. Mais il retourne aux enfers, sans aucune appréhension, il a beaucoup appris durant ce dernier voyage. Après avoir salué un par un les morts qu'il connaît, il décide de repartir. Cerbère, le chien à 3 têtes, aboie longuement dans sa direction en signe d'adieu. « Ulysse, écoute-moi, je te donne un dernier conseil !» lui crie l'ombre d'Agamemnon. « Lorsque tu arriveras à Ithaque, ne fais pas comme moi, cache-toi, ne te fais pas reconnaître tout de suite !» Observe d'abord. Plus de 10 ans se sont écoulés, c'est long. Mieux vaut une arrivée en secret qu'un retour triomphal qui se termine de façon tragique. Il ne faut pas longtemps au vaisseau d'Ulysse pour regagner l'île de Circé. La magicienne accueille son retour avec un mélange d'admiration et de crainte. « Ulysse, tu es un être exceptionnel. Les hommes ne vont qu'une seule fois aux enfers le jour de leur mort. Toi, tu es l'un des seuls humains au monde à être revenu de ta propre mort. » Mais Ulysse n'a que faire des compliments de Circé. Les flatteries de la magicienne ne lui font plus aucun effet. Il n'a qu'une idée en tête, tenir parole et rendre les derniers hommages au jeune Elpénor. C'est en pleurant qu'il lui fait de glorieuses funérailles. Il plante sa rame bien droite dans la terre et il murmure. « Tu étais peut-être fragile, Elpénor. Tu étais peut-être maladroit dans le maniement des armes. Mais aucun autre de mes compagnons n'aura été plus fidèle, plus noble et plus héroïque. Tu as su faire preuve de courage, tout en gardant cette extrême sensibilité, cette douceur qui te caractérisait. Je t'admire pour cela, Elpenor. » Sa voix se brise lorsqu'il ajoute « Tu me manqueras à jamais, et je sais que dans les nouvelles épreuves qui m'attendent, sans toi, je serai vraiment seule. » Dès le lendemain, un vent favorable se met à souffler. Ulysse fait charger son navire de vivres et de boissons, puis il va saluer Circé. Lorsqu'il franchit le seuil de la maison de la magicienne, Ulysse est saisi d'étonnement. Comment a-t-il pu demeurer auprès de cette femme aussi longtemps? Quel charme mystérieux l'a détourné de sa véritable route? Circé porte la même robe bleu azur, brodée de fils d'or, que le jour de leur rencontre. Mais Ulysse ne lui trouve plus la beauté qui l'avait séduit alors. Même ses yeux verts lui paraissent soudain manquer d'éclat. La magicienne, qui a compris depuis longtemps que ses charmes ne peuvent rien contre la puissante attraction de Pénélope, se contente de prévenir Ulysse des dangers qui le guettent sur le chemin du retour. « D'autres que moi peuvent t'empêcher de rejoindre celle qui t'habite. Prends garde aux sirènes, à leurs chants envoûtants. Prends garde aux roches errantes. Prends garde à Charybde et Scylla. » Ulysse entend ces noms pour la première fois. Il écoute avec attention les précisions données par Circé. « Et surtout, méfie-toi de tes compagnons de voyage et de toi-même, » conclut-elle. Ulysse est agacé par ces derniers mots plus qu'il ne l'aurait admis, car Tirésias lui a fait la même recommandation. Les marins rament avec vigueur et le bateau file droit depuis de longues heures. Une petite île apparaît à l'horizon. On dirait un gros caillou noir posé sur la mer bleue. Quand le navire s'en approche, le vent apporte avec lui les bribes d'un son mélodieux. Les sirènes! Les sirènes! Aussitôt, Ulysse bondit. Il distribue aux hommes d'équipage de petites boulettes en cire pour qu'ils se bouchent les oreilles. Certains hésitent. L'un d'eux ose demander « Oh Ulysse, on dit que le chant des sirènes est si beau et je rêve de l'entendre. Est-il vraiment nécessaire de se boucher les oreilles ?» Mais le roi d'Ithaque est inflexible. « Vous devez absolument éviter de les écouter, sinon vous en mourrez. Circé m'a bien prévenu. Allez vite, obéissez !» Ils ont presque tous obéi lorsque l'un d'eux s'aperçoit qu'Ulysse, lui, ne se bouche pas les oreilles. « Mais, et toi, capitaine ?» Sans répondre, Ulysse a attrapé un gros cordage. Il plaque son dos contre le mât du navire et donne l'ordre qu'on l'attache avec cette corde. « Et serrez fortement les nœuds !» Étonnés, les marins obéissent. Le son porté par le vent s'amplifie. Ils bouchent tous leurs oreilles, tous, sauf Ulysse. Au sommet du mât, un colibri et une chouette observe la scène. « Le problème avec Ulysse, » dit le colibri en battant des ailes, « c'est que sa curiosité l'emporte toujours sur sa prudence. » La chouette pousse un soupir. « Il est incorrigible. Il se croit toujours plus fort que les autres. Il vient à peine d'échapper aux griffes de cette fausse guérisseuse qu'il s'apprête à se jeter dans celle des chanteuses. » Plus le bateau approche de l'île, plus l'impatience d'Ulysse grandit. Il est bientôt suffisamment près pour que le son mélodieux que lui apporte le vent se transforme en chant. Jamais il ne lui a été donné d'entendre musique aussi envoûtante. Il ne comprend pas les paroles prononcées, mais elles coulent en lui et lui caressent l'âme. Le chant se fait tour à tour, ruisseau timide, serpentant paresseusement dans une prairie. Fleuve impétueux, emportant tout sur son passage. Cascade cristalline, ricochant sur les pierres d'une rivière. Oh oui, le chant des sirènes porte en lui toute la musique de la terre. Il est vol gracieux des oiseaux et des papillons, parfum entêtant des fleurs fraîchement écloses et fruits mûris au soleil. Il est sel de la mer, tempête, embrun, roulis des vagues voluptueuses sur l'océan. Et Ulysse se laisse emplir par les notes. Il se laisse emplir par les voix des sirènes. Et voilà qu'elle l'appelle. Ô grand guerrier, viens nous rejoindre. Confie-nous le récit de tes exploits. Donne-nous des paroles de suc et de sève. Ô grand Ulysse, viens chanter avec nous. Maintenant, le bateau passe tout près de leur côte. C'est alors qu'il les aperçoit. Trois belles sirènes, un corps parfait, mi-femme, mi-oiseau. L'une joue de la harpe, l'autre de la lyre, et la troisième agite de délicats grelots suspendus à son poignet. Elles sont là, assises au milieu d'une prairie couverte de fleurs. Envoûté, Ulysse tente de défaire les nœuds qui l'attachent au mât. Dans sa tête résonnent les paroles de Circé. Le chant des sirènes est si puissant qu'il peut te faire chavirer la tête et le cœur. Prends garde. Il peut te faire oublier ton île, ta femme et ton désir de retour. Regarde bien autour des sirènes. Les os de tous ceux qui ne se sont pas assez méfiés blanchissent au soleil. Mais Ulysse est comme ensorcelé. Il ne s'appartient plus. Il ne voit pas les os des hommes qui ont succombé avant lui au charme de ces manipulatrices. Plus rien ne compte, sauf son désir de courir les rejoindre et de chanter avec elles. Il fredonne des paroles qu'il invente pour elles. Les larmes coulent sur ses joues. Il crie à ses hommes « Délivrez-moi, desserrez cette corde, oh par pitié !» Oubliez Pénélope et son bonheur auprès d'elle. Oublier son île et son désir d'y retourner vivre en paix. Ô Ulysse tant vanté, nous chanterons ta gloire et ta beauté. Ô grand guerrier, nous serons le souffle de tes mots. Nous habillerons notre nudité avec les chansons que tu inventeras pour nous. Viens nous rejoindre, reste auprès de nous. Tu n'as plus d'autre pays que cette harpe, cette lyre et ces grelots. Ulysse réussira-t-il à échapper aux dangereuses sirènes? Le vent est tombé. La voile pend lamentablement, inutile. Ulysse tremble de désir, hurle pour qu'on le détache. Ses lèvres, craquelées par le soleil et le sel, saignent. Et les sirènes continuent leurs appels langoureux. « Tu es si beau !» chante l'une. « Oh, tu es si grand !» chante l'autre. « Tu es si puissant !» chante la troisième. « Viens, beau marin ! Même les pierres pleureront d'émotion lorsque tu chanteras avec nous !» La tête pleine de braise, Ulysse commence à avoir des hallucinations. Il supplie comme un mendiant. Il est pitoyable, il est grotesque. Pantin désarticulé, insecte pris au piège d'une toile d'araignée. Mais ces hommes ont empoigné leurs rames et ils tentent de s'éloigner de l'île des sirènes. Tête baissée, oreilles bouchées par la cire, ils ne peuvent entendre Ulysse. Plus le chant des sirènes se fait caressant, voluptueux, plus Ulysse se débat et plus les marins rament. Peu à peu, le navire s'éloigne de l'île. Le chant séducteur des sirènes diminue d'intensité. Quelques accords de la lyre et de la harpe pincent encore douloureusement le cœur d'Ulysse jusqu'à disparaître complètement. Un grand silence suit. Seulement rompu par les cris des mouettes, et le clapotis des vagues sur la coque du bateau. Lorsqu'enfin l'île des sirènes n'est plus visible à l'horizon, Eurylope ordonne que l'on détache Ulysse. Celui-ci revient tout doucement à lui. Ses hommes retirent leurs bouchons de cire en se donnant de joyeuses tapes dans le dos. Ils ont été les plus forts, ils en rient de plaisir. Le roi d'Ithaque, lui, se sent vidé. Il retrouve ses esprits et il comprend à quel terrible danger il vient d'échapper. Ce chant, cette musique, ces femmes oiseaux ont bien failli le dévorer tout entier. Un peu plus et ses os auraient blanchi aux côtés de ceux des nombreux malheureux qui n'ont pas su dompter leur attirance. Mais il en garde une poignante nostalgie, cette douleur que seule la musique peut procurer. Cette nuit-là, un rêve étrange le visite. Il marche dans une immense prairie dont les herbes sont aussi hautes que lui. Sur sa route, il croise un hérisson et il a la surprise de constater qu'il fait la même taille que lui. Il a sorti un couteau et il essaye de se frayer un chemin au milieu des touffes d'herbe. Au fur et à mesure qu'il les coupe, d'autres surgissent, plus hautes, plus menaçantes encore. Et bientôt, il arrive devant une sorte d'étang. Peut-être n'est-ce qu'une flaque d'eau, vu sa taille. Il se penche pour prendre une gorgée, mais il se recule vivement. Au fond de l'eau, tapi, une nymphe sous-marine le guette. Il n'a que le temps d'apercevoir son sourire d'hippocampe et de se jeter en arrière pour éviter qu'elle ne l'entraîne au fond de l'eau. Il poursuit alors sa route. Le chemin est devenu moussu, glissant. Il arrive bientôt à une cascade. Sous le filet d'eau, une harpe est posée. L'instrument joue tout seul. On dirait qu'il est doté d'une vie autonome. Un son mélodieux s'en dégage. Ulysse s'approche. Il est émerveillé. Une petite grenouille court sur les cordes. C'est elle qui fait chanter l'instrument. Soudain, la jolie petite rainette enfle et se transforme en un gros crapaud. Celui-ci sort sa langue et tente de saisir Ulysse pour l'avaler. Pour lui échapper, Ulysse se met à grimper le long des cordes de la harpe, comme s'il grimpait sur le mât d'un navire. Arrivé en haut, il se retourne et il découvre que les cordes de la harpe sont devenues les cordes d'un métier à tisser. Une femme, de dos, laisse courir ses doigts sur les fils. Quelques mèches, échappées de son chignon, forment des accroche-cœurs dans sa nuque. Lorsqu'elle se retourne à demi, le cœur d'Ulysse bondit dans sa poitrine. C'est Pénélope. Ulysse crie pour attirer son attention, mais au fil de sa progression, il n'a cessé de rapetisser. Il n'est désormais pas plus gros qu'un criquet, et Pénélope ne peut ni le voir ni l'entendre. Sur les lèvres de sa femme, Ulysse peut cueillir quelques mots. « Mon homme, reviens vite, je t'attends. » Il se laisse glisser le long des cordes, mais celles-ci se sont transformées en toile d'araignée. L'affreuse bête, tapie dans le coin opposé de sa toile, commence à avancer vers lui. Elle le fixe de ses petits yeux rouges et cruels. Englué, Ulysse se débat en vain. C'est alors qu'il se réveille, en sueur, avec une seule idée en tête. Son rêve annonce-t-il son impossible retour ?